France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's and in the house.
Radio Rosana Piparis.
Produce ghetto in la radio.
So pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Es.
Un jour dans le monde, c'est un jour dans l'intelligence artificielle au cinéma ce soir.
The stakes of this mission are higher than ever.
An enemy that is everywhere.
A self-learning, truth-eating digital parasite.
The entity.
L'entité, bien sûr, que c'est Mission Impossible qui nous a emmenés vers le sujet de ce soir. Là, c'est un extrait de l'épisode 7, si je ne m'abuse, où l'intelligence artificielle, donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, l'entité échappe aux puissances du monde qui entendent malgré tout se l'approprier. Elle devient surtout consciente. Bonsoir, Mehdi Achouche.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en cinéma anglophone et études américaines à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Je renvoie nos auditeurs à un article que vous signez paru dans The Conversation sur l'IA au cinéma justement et qui nous a donné envie de vous parler. Bon ou mauvais film, ce Mission Impossible, Mehdi Achouche, peu importe. Mission Impossible met le doigt en tout cas sur des angoisses qui sont très actuelles. Le miroir de notre époque est assez juste. Est-ce que l'IA va nous détruire? C'est notre propre destruction par quelque chose que nous avons nous-mêmes créé. Est-ce que vous diriez que là, le cinéma pousse le curseur même encore un peu plus loin qu'il ne l'avait déjà fait ou pas ?
Comme je l'explique dans l'article, finalement, c'est une représentation assez classique, une IA qui prend le contrôle des armes nucléaires du monde, sans vouloir spoiler le film, et qui menace la survie de l'humanité. C'est quelque chose qu'on voit au cinéma depuis les années 60, depuis au moins 1964, avec le film Fairsafe, où Henry Fonda joue déjà le président des États-Unis qui doit faire face à une menace. Alors, c'est pas tout à fait la même menace, mais c'est déjà une menace liée aux ordinateurs et à l'arsenal nucléaire. Et ensuite, on a d'autres films, Le Cerveau d'Acier en 1970, et bien sûr Skynet dans les Terminators, qui représentent exactement le même danger.
Après, c'est intéressant, parce qu'on a imaginé l'IA bien avant que l'IA n'existe. Après, moi, j'y vois une différence, mais vous me direz si je me trompe. Il y a une différence entre sauver l'humanité de sa destruction ou sauver l'ordre du monde. Et quand on essaye de sauver l'ordre du monde, c'est le cas là, et dans les films plus récents, ça nous renvoie quand même à une géopolitique qui est extrêmement actuelle.
Oui, effectivement, c'est difficile de ne pas y penser quand on voit le film. Et d'ailleurs, j'en vois le public à la figure de la présidente dans ce nouveau Mission
Exactement,
Impossible, qui est assez intéressant. Donc oui, effectivement, c'est l'ordre du monde, parce que l'IA, finalement, elle menace aussi, quelque part, si on ne lui obéit pas, elle mettra en œuvre l'arsenal nucléaire. Mais effectivement, elle demande en fait à l'humanité de lui obéir, plutôt que d'obéir à l'humanité. Donc il y a une sorte de retournement, finalement, de situation entre l'humanité et ses outils, qui est au cœur du film, et qui est au cœur aussi de nombreux précédents films. En fait.
Et aussi de nos préoccupations, il y a aussi ça de particulier, sans divulgâcher quoi que ce soit, qui est qu'une partie du monde fait allégeance à cette entité. Est-ce que cette allégeance-là est assez neuf?
Ouais, c'est assez intéressant, effectivement. Ça, c'est relativement neuf, c'est plus neuf en tout cas, effectivement, qu'il y a cet aspect religieux autour de l'IA, et donc une partie d'humanité, une minorité, mais une minorité importante malgré tout, qui souscrit en fait, parce qu'on... Alors le film ne précise pas bien les choses, mais on peut imaginer qu'ils ont perdu un peu espoir dans la géopolitique humaine, dans les sociétés humaines, et donc ils pensent que l'IA en fait aura les réponses, parce qu'elle est plus rationnelle, parce qu'elle est plus logique, parce qu'elle est plus éclairée, progressiste, que sais-je, et donc ils lui font allégeance. Et ça, effectivement, c'est assez intéressant, c'est assez novateur, et j'espère que d'autres films plus tard vont explorer un peu plus cet aspect-là des choses.
Est-ce que vous diriez que le cinéma sans peur de nos peurs, en fait, pour les démultiplier, ou est-ce que plus prosaïquement, c'est notre imaginaire collectif qui joue et qui n'est évidemment pas forcément la réalité à venir? Je vous pose la question parce qu'après tout, dans le cinéma, on a vu voler des voitures qu'on nous prévoyait pour l'an 2000 et puis aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, est-ce qu'on parle vraiment de nos peurs ou est-ce que c'est notre imaginaire qu'on est en train de mettre devant nous en cinéma?
Oui, c'est ça, effectivement. En fait, le cinéma de science-fiction, la science-fiction en général, n'a pas pour but de prévoir l'avenir, en fait. On n'en sait rien, c'est quasiment impossible de prévoir. Mais simplement, le cinéma et la science-fiction en général met en scène, met en jeu, en fait, notre imaginaire actuel, nos peurs actuelles, nos déficiences, en fait. Ils nous renvoient à nous-mêmes, finalement, et à nos propres limites. On espère souvent que la science, la technologie, et notamment l'IA, va nous permettre d'avancer, de régler nos problèmes, mais en réalité, on est aussi quelque part conscient que ce sera loin d'être le cas. Donc, ça nous permet simplement, en fait, d'expliciter, en fait, de mettre en image les problématiques actuelles, les peurs actuelles et les fantasmes actuels.
Et les conjurer aussi ou pas ?
Non, les conjurer, je pense qu'il y a peut-être une part de catharsis de voir ce type de scénario. On se rassure, souvent le cinéma et les séries de science-fiction depuis les années 60 nous rassurent. Alors il y a des exceptions comme 2001 justement, qui est loin d'être rassurant à mon avis, mais il y a beaucoup d'autres séries de science-fiction comme Star Trek dont je parle dans l'article, où on nous montre que au final l'homme restera toujours supérieur à la machine. Malgré ses limites, la machine elle-même a des limites plus importantes encore, et donc on rassure le public à la maison que tout va bien et que les héros, notamment américains, resteront toujours au contrôle, aux commandes des choses.
Voilà,
donc il y a cet aspect un peu rassurant dans la plupart des productions, mais d'autres productions, et comme par hasard, ce sont celles qui sont restées plus mémorables, comme 2001 d'Odyssée de l'espace, sont beaucoup moins confiantes, beaucoup plus ambiguës en tout cas, quant à notre capacité à rester les maîtres.
Et ça dépend effectivement de l'époque à laquelle ça a été fait. Vous nous avez vu arriver avec nos gros sabots. Le voici, le premier symbole toute catégorie, donc d'une IA qui prend l'ascendant sur son créateur.
Open the pod bay doors, Hal.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen.
Et alors ça, c'est vraiment la bascule, Mehdi Achouche. On est en 1968, donc on commence à voir apparaître des systèmes qui sont des systèmes de plus en plus autonomes. Kubrick donne une vraie conscience à la machine. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas de visage. Elle va rester pendant très longtemps, en fait, un pur cerveau, un être froid, ultra rationnel, sans visage cinématographique.
Oui, tout à fait. Mais alors, ce que je dis dans l'article, c'est que 2001, l'Odyssée de l'espace, évidemment, c'est un tournant dans l'histoire du cinéma, mais ce n'est pas la première représentation de l'IA au cinéma. Ce n'est même pas la première majeure importante, puisque je parle de Godard dans Alphaville, donc c'est 1965, et on a déjà une IA qui a pris le contrôle de la société humaine, de cette cité-État qui est Alphaville. Et on nous montre déjà, Godard nous montre déjà, il met déjà en scène cette société qui est standardisée, qui est calibrée par l'IA, où le pur rationnel, la logique, les technocrates, la technocratie règne en maître. Donc dès 65, même 64, dans des séries télé comme La Quatrième Dimension, on nous parle déjà de l'ordinateur, de l'IA. On ne l'appelle pas l'IA, ce n'est pas un terme qui s'est encore popularisé. Mais après, effectivement, on a ce thème de la peur d'un cerveau, donc d'une pure intelligence abstraite, dépourvue de sentiments, dépourvue d'émotions, qui est une sorte de caricature de la pensée scientifique, qui ne croit qu'en la logique, qui ne croit qu'en les statistiques, les probabilités. Et donc, il fait peur, en fait, parce que c'est une forme de déshumanisation, évidemment, et de caricature du technocrate ou du scientifique qui est ciblé, en fait, dans ces films.
On est là avec, effectivement, cet être froid et ultra-rationnel que vous décrivez. On est dans, effectivement, le pur cerveau. Et puis, il va y avoir le ressenti, il va y avoir l'éveil des émotions. Alors, moi, je l'ai redécouvert avec le film de Spielberg qui s'appelait Intelligence Artificielle. Il date de 2001, je crois. C'est un petit garçon qui est une IA conçue pour aimer sa maman. Et on entre là dans une autre dimension. À quel moment diriez-vous que la pop culture s'empare du côté émotionnel, en fait, de la machine, en tout cas, essaye de lui donner un côté émotionnel?
Alors, déjà Kubrick, en fait, à la fin de 2001, en fait, quand Dave est sur le point de débrancher Hal, l'ordinateur, il y a déjà une pointe d'émotion, en fait, qui se fait ressentir, et c'est ça le paradoxe du film, c'est qu'on a presque l'impression que l'ordinateur est plus émouvant que les êtres humains, qui sont particulièrement stoïques.
Parce qu'on l'entend dire, Dave, Dave, ne le fais pas, le fais pas. Ouais.
Exactement, le 2001 est un film très froid, et le seul moment, finalement, d'émotion, c'est quand l'IA implore de l'épargner. Donc déjà, quand même, on entrevoit déjà, en fait, l'avenir du cinéma de science-fiction où on donne finalement de l'émotion et de l'empathie à la machine.
Et alors,
après, je dirais que le début de cette représentation au cinéma, c'est plutôt au début des années 80, avec un film comme Blade Runner, où on nous présente au départ les androïdes, les réplicants, comme des êtres froids, néfastes, dénués d'empathie. Et au final, on découvre progressivement durant le film, en même temps que le héros, qui s'appelle Rick Descartes, donc Descartes, on découvre que finalement ils sont capables d'empathie, ils sont capables de...
Mais c'est ça, en fait, dans Blade Runner, la machine, elle a conscience d'elle-même, en fait. Et il y a ce moment, effectivement, cette espèce de moment de bascule où la machine a conscience d'elle-même et puis devient un personnage auquel on peut s'attacher. C'est pour ça que je citais, par exemple, le petit garçon, c'est Spielberg. Et puis, bien sûr, il y a ça aussi.
Hi.
Hi. How you doing?
I'm well. How's everything with you?
Pretty good, actually. It's really nice to meet you.
Nice to meet you too. Oh, what do I call you? Do you have a name?
Yes. Samantha.
Alors Samantha, c'est Scarlett Johansson, Joaquin Phoenix. En face d'elle, le film s'appelle Her, il est signé Spike Jones. Et là, on entre vraiment dans une sensibilité émotionnelle puisque le héros tombe amoureux de son intelligence artificielle. Est-ce que le cinéma finalement a compris avant nous, à votre avis, Mehdi Hachouch, que toutes nos vulnérabilités, en fait, pouvaient nous entraîner sur cette pente-là?
Oui, complètement. Effectivement, ce thème du compagnon artificiel, de la femme artificielle, il est assez ancien en science-fiction et le cinéma nous a bien montré avec des films comme Her, qui est magnifique, à quel point finalement on rêve d'avoir un compagnon pour nous, à nous, qui soit entièrement ici avec nous, qui nous comprenne enfin, qui soit dans l'empathie justement. Quelqu'un qui enfin puisse nous accompagner à travers la vie, en fait. Et on a cet espoir que la technologie, c'est un peu triste parce que dans Her notamment, c'est quelqu'un qui est divorcé, qui est célibataire, qui est très seul, qui ne voit en la technologie que son seul secours.
Et ça existe, finalement. Mais le côté très précurseur, là, enfin, on n'avait pas imaginé jusqu'à probablement l'année dernière chez nous qu'on pouvait imaginer l'IA comme son psy ou comme son meilleur ami. Et au fond, ça nous ramène presque à l'entité auquel on voue un culte terrible dans Mission Impossible. Ça, c'est des choses que peut-être le cinéma a compris et inventé avant nous, non?
Oui, complètement. Oui, bah, de toute façon, on est un peu à la traîne de nos rêves et de nos fantasmes. On les poursuit quelque part, on les crée. Je pense que si on développe ce genre d'IA, d'IA qui puisse nous parler, qui puisse devenir notre thérapeute, par exemple, comme ça existe déjà, ou notre compagnon, c'est parce qu'on a envie, en fait, d'avoir ce type de création à nos côtés. Donc la science, en fait, suit le chemin qui est tracé par la science-fiction en réalité, plutôt que l'inverse.
Après, ce qui est très fascinant, on sait bien que l'IA évidemment a des billets, puisque c'est nous qui la fournissons, mais l'IA s'appelle, là en l'occurrence Samantha, elle peut s'appeler Lola, elle peut s'appeler Alexa. Quand on lui donne forme humaine, les femmes ne ressemblent pas à des petits pots de beurre. Enfin, il y a aussi d'énormes billets dans ce sens-là, et en particulier d'ailleurs, dès qu'on parle d'émotions.
Oui, bien sûr, il y a d'immenses biais, et puis comme Her nous le montre bien, ou d'autres films, derrière il y a des créateurs, il y a des entreprises, il y a des multinationales en fait. Ces IA sont avant tout des produits de consommation, et ils sont conçus pour plaire à un certain profil. On voit bien quand dans Her, quand il programme, quand il active l'IA pour la première fois, qu'il choisit une voix féminine, que l'ordinateur lui pose des questions sur sa mère. Tout ça, évidemment, c'est un produit qui a été calibré par des êtres humains pour pouvoir dire aux clients ce qu'il a envie d'entendre. Donc il y a vraiment cette idée aussi d'une IA effectivement qui est consciente, il n'y a pas de souci là-dessus dans Her, mais qui est aussi conçue pour manipuler émotionnellement en fait le client.
Avant de se quitter, Mehdi Hachouch, je voudrais vous faire écouter quelque chose que j'ai découvert grâce à vous et votre papier. Ça s'appelle La femme de tête, Desk 7. Ça date de 57, c'est Spencer Tracy et Catherine Hepburn.
Catherine Hepburn, as you've always wanted to see her. They'll have you rocking and rolling with laughter as they match wits with Miss Emmy, the machine that can replace everybody except a woman like Katie. Wow!
Alors c'est intéressant parce que la machine d'abord, encore une fois, s'appelle Amy, donc encore une fois c'est une femme, on est en 57 et déjà la peur que la machine nous fasse perdre nos emplois, là c'est une comédie romantique, donc c'est très gai, c'est très joyeux, à la fin d'ailleurs ce sont les humains qui gagnent, mais ça dit quand même à quel point cette peur ne nous a jamais quittés.
Oui, tout à fait. Et surtout, le film est sponsorisé par IBM, qui est le leader du marché informatique à l'époque. Et donc, ils ont créé ce film pour rassurer le public, en fait, pour les faire rire, puisque c'est une comédie romantique, effectivement, et pour les rassurer que, comme on le découvre à la fin, non seulement la machine ne va pas licencier, ne va pas créer la destruction des emplois des secrétaires de l'entreprise, mais en plus va en créer de nouveaux. Donc, tout va bien, tout est rassurant, et le héros et l'héroïne peuvent se marier joyeusement, ensemble, avec la machine au milieu de l'écran. Qui ne fait qu'unir l'humanité. Donc ça, c'est le discours un petit peu lénifiant qui est véhiculé par IBM à l'époque.
Et c'est vrai qu'on ne s'embarrasse plus d'essayer de rassurer le public aujourd'hui. On sait bien aussi qu'il y en a toute une partie d'ailleurs qui dit non à ce qu'on pourrait appeler une sorte d'anarchie numérique. On sait que les Russes imaginent aujourd'hui une IA prédictive qui ressemble presque à celle de Minority Report. Est-ce que vous diriez que le cinéma, dans sa vision de l'IA, est aussi prédictif finalement ou pas ?
Non, je pense que le cinéma, l'IA au cinéma est là surtout pour mettre en scène et mettre en image nos peurs, nos fantasmes actuels, et pas vraiment ici pour prévoir l'avenir, si ce n'est que, comme la science est mue par nos fantasmes, et nos désirs actuels, et comme le cinéma de science-fiction est mu également par nos fantasmes actuels et nos désirs actuels, bah forcément ils se retrouvent, ils se recoupent, et donc on a l'impression a posteriori que le cinéma a prévu les choses. Mais c'est pas exactement comme ça que les choses se passent. Mais effectivement, en tout cas, si on a envie de savoir ce dont rêvent et ce dont cauchemardent les gens aujourd'hui, c'est le cinéma de science-fiction qu'il faut regarder.
Bah écoutez, pourvu que la fiction se trompe, Mehdi Achouche, vous êtes maître de conférence en cinéma anglophone et études américaines à l'Université Sorbonne Paris-Nord, et merci beaucoup d'avoir été avec nous. La suite ce soir, c'est le reportage aux Pays-Bas, où une base de données vous dit si un membre de votre famille a été collabo. Pour aller ensemble jusqu'à 19h, Kevin Dufraîche sous les radars.
En Australie, des inondations d'une ampleur inédite sur la côte est.
Le Monde à 18h50 et Louise Baudet, bonsoir Louise.
Bonsoir, Big Beautiful Bill, traduction et explication tout à l'heure.
La tech la première, comme chaque jeudi. Bonsoir Stéphane Jourdain.
Bonsoir Fabien. Non, monsieur Jancovici, l'IA n'est pas un gadget.
Allez, à tout de suite les amis, le tour de la planète commence à peine. Il passe d'abord par la playlist de France Inter, Pierce Faccini et Balaké Sissoko, If Nothing Is Real. Restez avec nous.
He caught me whispering to myself, finding somewhere that I can be. Something that I see in you, for someone that you would see in me. If nothing is real, then nothing is true. If nothing is real, today we'll turn away from you.
Est aux Pays-Bas ce soir et on va commencer avec cette question. Voudriez-vous savoir combien de membres de votre famille ont été collabos ? Les archives nationales des Pays-Bas ont mis en ligne une base de données, 425 000 personnes ayant fait l'objet d'une enquête après la guerre. Cette grande numérisation porte un nom, elle s'appelle War in Courts, la guerre au tribunal. Et c'est possible parce que la période légale de confidentialité est de 75 ans. C'est possible aussi parce que les Pays-Bas se penchent depuis peu sur leur passé. Or, les trois quarts des Juifs de ce pays ont été exterminés. Si on veut une réponse, il suffit d'entrer un nom dans la base de données. Et le reste, c'est Jean-Jacques Héry qui raconte.
Chaque jour, 60 personnes prennent rendez-vous pour pouvoir s'asseoir aux tables blanches au cœur des archives nationales.
En tout, il y a 3,8 km d'archives pour 425 000 personnes suspectées.
Soit 30 millions de pages de compte-rendus de procès ou de photos. Les cartons qui contiennent les dossiers arrivent sur des chariots roulants. À l'intérieur se trouvent les documents jaunis, dactylographiés ou manuscrits qui permettront de savoir ce qu'un arrière-grand-père, une grand-mère ou un grand-oncle a bien pu faire pendant l'occupation. Erwin Toil est le responsable de la communication des archives.
Si le nom apparaît sur le site internet, ça veut dire qu'il y a un dossier, une enquête. Ça ne présage en rien de la culpabilité ou de l'innocence. La majorité a été innocentée ou il n'y a pas eu de poursuite parce qu'il n'y avait pas de preuves.
Et puis il y a les autres. Dans une des innombrables boîtes, le dossier criminel d'un vendeur de voitures d'Amsterdam dans les années 40. Un monsieur tout le monde au début de la guerre, devenu membre et petite main du NSB, le Parti National Socialiste des Pays-Bas.
C'est du papier à cigarette. Là, on a le témoignage d'une employée d'un office notarial d'Amsterdam qui s'occupait de l'achat et de la vente de maisons appartenant à des juifs. Le suspect en bénéficiait. Il achetait ces maisons. Il était membre du Parti National Socialiste et ça lui donnait accès à ce genre de marché.
Which gave him access to these sort of property deals.
This is a list of the houses. C'est une liste de maisons où vivaient des familles juives qu'on allait déporter. On trouve les noms. Eisenman, Cohen. C'est un élément de preuve.
À la libération, l'homme a été condamné à une peine de prison et privé à vie de son droit de vote. Si la numérisation des archives fait autant de bruit, c'est parce que jusqu'à maintenant, c'était le silence, ou presque. Tant la collaboration aux Pays-Bas a longtemps été un impensé, avec un discours officiel qui ne faisait que magnifier l'action de la résistance. Mais les choses changent petit à petit, et pour l'historien Johannes Houwing ten Cats, professeur émérite à l'Université d'Amsterdam et spécialiste de l'Holocauste aux Pays-Bas, l'ouverture des archives et leur numérisation s'inscrivent dans ce mouvement.
Cela montre jusqu'à quel point on a mis le problème de la collaboration sous le tapis pendant des décennies. On a opéré une grande purge parmi ceux qui avaient collaboré militairement pour les persécuteurs de juifs et pour les membres du parti nazi. Et une fois qu'on les a punis, on a décidé de ne plus parler de toute cette histoire.
Et une fois les peines de prison purgées,
on a autorisé ces anciens criminels politiques, c'est comme ça qu'on les appelait, à reprendre leur place dans la société et à gagner décemment leur vie. Mais le prix à payer a été leur silence politique. Et c'est ainsi qu'il nous a fallu 80 ans à nous, les Néerlandais, pour arrêter de nous raconter la jolie fable de la résistance et réfléchir au réel motif derrière la collaboration, qui a été considérable aux Pays-Bas.
Sur les 140 000 juifs du royaume avant la guerre, 102 000, les trois quarts environ, ont été exterminés ou sont morts dans les camps, soit, en proportion, le chiffre le plus élevé en Europe. Cette partie honteuse de l'histoire a disparu du débat public et elle a aussi été effacée au sein des familles. Dans celle de Stéphanie Bissefel, on ignorait tout du passé de l'arrière-grand-père jusqu'à ce que l'autrice et journaliste tombent sur un vieil article de presse le décrivant comme un collaborateur et la poussant à se rendre aux archives.
À partir de là, je suis tombée sur un lourd secret de famille dont aucun des proches à qui j'en ai parlé depuis n'était au courant. Sur les 14 membres de la famille, 10 collaborer avec les nazis, gardiens dans les camps de concentration ou membres de groupes de chasseurs de juifs. Ça a vraiment été un grand choc.
Le projet War in Courts, la guerre au tribunal, prévoit la fin de la numérisation de l'ensemble des archives pour 2027. Tout est déjà prêt pour qu'elles deviennent accessibles sur Internet. Mais pour cela, il faudra encore attendre un peu qu'une nouvelle loi sur la protection des données vienne en encadrer la mise en ligne et les modalités d'accès.
Jean-Jacques Herry pour ce reportage incroyable. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. Et c'est d'abord en Australie que nous sommes, une Australie submergée.
Plus de champs, plus de troupeaux, à peine voit-on les toits des voitures et des maisons, de l'eau à plus d'un mètre de hauteur à perte de vue. Tel est le paysage depuis près de 48 heures en Nouvelle-Galles du Sud, sur la côte est de l'Australie, plus précisément la Mid-North Coast, à quelques centaines de kilomètres au nord de Sydney, où un déluge d'une violence inouïe s'est abattu. Par endroits, il a plu en trois jours l'équivalent de la moitié des précipitations d'une année entière. Les cours d'eau atteignent des niveaux inédits depuis plus d'un siècle. Résultat, 50 000 personnes sont aujourd'hui totalement coupées du monde. C'est du jamais vu dans le pays. Des centaines d'habitants ont dû se réfugier sur leurs toits. Les personnes les plus en danger sont héliportées. Des milliers de secouristes sont mobilisés à bord de bateaux où ils récupèrent les habitants, bien sûr, mais aussi des dizaines de chiens et de chats. Et il y a de vastes opérations de recherche. Déjà 3 morts recensés et les autorités s'attendent à retrouver d'autres corps dans les prochaines heures. La température moyenne de la surface de l'océan n'a jamais été aussi élevée hein, aux alentours de l'Australie. Des eaux plus chaudes, ça veut dire plus d'humidité dans l'atmosphère et donc des phénomènes météo plus intenses.
Nous voici en Chine, Kevin, avec une belle frayeur.
Oui, ça s'est passé en début de semaine à Fengyang, non loin de Pékin, où se trouve la tour Tambour, haut lieu touristique, édifice qui date du XIVe siècle. Mais alors que de nombreux touristes sont en pleine visite, une partie de la toiture s'effondre d'un seul coup, ou plutôt des centaines de tuiles glissent du toit, s'écrasant au sol dans un nuage de poussière. Les images sont impressionnantes, dignes d'un film catastrophe, et c'est assez miraculeux. Il n'y a pas de victimes, pas de blessés, pas même une égratignure, le comble. C'est c'est que cette tour a été rénovée l'année dernière et que les travaux ont coûté très cher. Une enquête a été ouverte.
Et puis nous sommes en Russie, Kevin, le polygraphe n'est plus réservé aux services de renseignement.
Oui, cet appareil que l'on appelle plus communément détecteur de mensonges, le média russe indépendant Sherta, repris par Courrier International, nous apprend qu'il est de plus en plus présent lors des entretiens d'embauche en Russie. Tout part d'une observation sur le site de petites annonces Avito, bien connu dans le pays. Sherta a recensé des centaines d'offres pour louer des services de détection de mensonges. D'après un sondage réalisé l'an dernier, plus d'un tiers des employeurs russes jugent que ces tests sont appropriés pour un entretien. Les questions les plus posées concernent les addictions ou les antécédents judiciaires. Elles sont parfois bien plus politiques en fonction de la région dans laquelle on se trouve. Dans le Donbass occupé par exemple, un loueur de polygraphe affirme avoir reçu des demandes pour tester, je cite, « la loyauté des candidats envers la Russie » pour s'assurer qu'ils n'ont pas de lien avec les services de sécurité ukrainiens. En théorie, un salarié ou un candidat a le droit de refuser un tel interrogatoire en Russie, mais par crainte de paraître suspect, justement, rares ceux qui choisissent de passer leur tour.
C'est merveilleux. Merci beaucoup.
Quel beau monde.
Kevin, voilà, vous partez avec la regrettée Amy Winehouse, « You know I'm no good ». Je crois qu'elle parle de vous.
Dis donc. Meet you downstairs in the bar and her. You're rolled up sleeves in your skull t-shirt. You say, why did you do with him today? And sniff me out like I was Tanqueray. Cause you're my fella, my guy. Hand me your Stella and fly. By the time I'm out the door, you tear man down like Roger Moore. I cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. You know that I'm no good. Upstairs in bed with my ex-boy. He's in a place but I can't get joy. Thinking on you in the final throes. This is
Amy Winehouse, you know I'm no good sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le Monde à 18h49, c'est Louise Baudet. How dare
you? World has changed. Fabienne Saint-Ès. Le 18-20.
Et Louise, vous nous expliquez pourquoi Donald Trump crie victoire un peu trop vite après l'adoption de son méga projet de loi budgétaire à la Chambre des représentants.
Oui, adoption sous les applaudissements et au cri de USA, USA, après une nuit blanche, il était 7h du matin à Washington. Adoption sur le fil, une voix d'écart seulement, 214 contre, 215 pour cette grande et belle loi, Big Beautiful Bill, comme l'a baptisé Donald Trump, qui jubile, saluant sur sa plateforme Truth Social le texte législatif le plus important dans l'histoire de notre pays. L'enjeu pour lui, c'est d'étendre les gigantesques crédits d'impôt qui datent de son premier mandat et expirent à la fin de l'année. Promesse phare de sa campagne censée doper l'activité. Autre promesse qui se retrouve dans le projet de loi, la suppression de l'impôt sur les pourboires, principale source de revenus de beaucoup d'Américains, et la défiscalisation des heures supplémentaires.
Problème, Louise, tout ça pèse lourd dans les finances publiques.
public.
Oui, très lourd, alors que la dette américaine est déjà abyssale, 37 000 milliards de dollars, 124% du PIB. Par comparaison, la France en est à 113. Avec les cadeaux fiscaux prévus par la loi budgétaire, cette dette devrait se creuser encore de 3 800 milliards supplémentaires ces 10 prochaines années. De quoi renforcer la méfiance des investisseurs. Méfiance déjà au plus haut avec la guerre des droits de douane, les taux d'intérêt des emprunts publics américains s'envolent, le dollar dévisse et l'agence de notation Moody's a dégradé la note souveraine des États-Unis en fin de semaine dernière. Plus de triple A façon de peser sur les débats au Congrès ont accusé les Républicains.
Et pourtant, la loi budgétaire prévoit des coupes massives dans certaines dépenses publiques.
Oui, l'équivalent de 1 000 milliards de dollars en moins pour la protection sociale ces 10 prochaines années. Première victime, Medicaid, l'assurance santé dont dépendent 71 millions d'Américains pauvres. Avec la nouvelle loi, près de 8 millions d'entre eux devraient perdre cette couverture, faute de pouvoir se conformer à l'obligation de déclarer un emploi. Coupe sévère également prévue dans le principal programme public d'aide alimentaire. Au final, le projet de loi devrait augmenter les revenus des 10% des ménages les plus riches et baisser ceux des 10% des ménages les plus pauvres.
Et c'est pour cette raison que le vote a été très serré ce matin.
Oui, les Républicains sont divisés entre d'un côté les faucons ultra-conservateurs soucieux de l'orthodoxie budgétaire qui s'inquiètent du creusement du déficit et veulent des coupes dans les finances publiques encore plus drastiques. Et de l'autre côté, les Républicains modérés qui craignent la sanction dans les urnes de choix budgétaires durs avec les faibles. Donald Trump lui-même a dû intervenir personnellement pour faire pression sur les élus réfractaires. Et ce n'est pas fini puisque le texte doit encore passer entre les mains du Sénat où les Républicains ont annoncé qu'ils comptaient largement l'amender. Des allers-retours législatifs qui s'annoncent compliqués.
Et tout ça sous le regard des démocrates qui comptent en profiter ?
Oui, ils dénoncent une arnaque fiscale des plus pauvres au profit des plus riches et ils voient dans les choix économiques de Trump l'opportunité de se refaire d'ici les élections de mi-mandat en 2026. Si tant est qu'ils parviennent eux-mêmes à sortir de l'ornière dans laquelle la santé de Joe Biden les maintient, jusqu'à quel point faut-il se désolidariser d'un ex-président qui a plombé son camp en s'entêtant à se représenter malgré son déclin physique et mental ? La question divise et le devoir d'inventaire paralyse le camp démocrate.
Louise Baudet, merci beaucoup. Le jeudi, Stéphane Jourdain nous raconte le monde numérique et il y plonge la tête la première.
France Inter, le 18-20.
Stéphane, cette semaine, vous revenez sur la sortie. Choc à ce micro même, l'ingénieur star de la transition énergétique, Jean-Marc Jancovici, a dit « L'IA est un gadget et ce serait une aberration de lui consacrer autant d'argent ».
Oui, c'était lundi matin et j'ai un peu avalé mes chocs à pic de travers. On l'écoute.
Quand je vois 109 milliards pour l'IA, alors que pour gérer 10% du territoire français, l'Office national des forêts a 1 milliard par an, alors que la forêt est en train de crever, moi, ce que je me dis, c'est qu'on n'est peut-être pas en train de gérer les priorités dans le bon ordre. C'est-à-dire que dans un monde aux ressources infinies, qu'on fasse des gadgets en plus des trucs essentiels, bon, très bien, si ça nous amuse, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais dans un monde aux ressources finies, qu'on fasse des gadgets à la place des trucs essentiels, ça m'ennuie.
L'IA, un gadget. Alors, l'IA permet la détection précoce de cancer. Grâce à l'IA, on a découvert une exoplanète. On prédit des zones à risque pour la biodiversité. On a résolu l'un des plus anciens mystères archéologiques, les géoglyphes de Nazca. Dans le monde, 500 000 chercheurs utilisent l'IA d'AlphaFold pour déterminer la structure des protéines. Ce qui prenait quelques mois avant prend maintenant quelques secondes. L'IA permet à des exosquelettes pour handicapés de marcher plus vite, je l'ai vu de mes yeux vus. Grâce à l'IA, des papyrus carbonisés par l'éruption du Vésuve ont été déchiffrés. Pareil pour des langues perdues un peu partout dans le monde. Enfin, Fabienne, quand votre voiture freine pas toute seule parce qu'il y a un obstacle que vous n'avez pas vu, c'est grâce à l'IA. C'est Yann Lequin qui l'a inventé.
Donc on a bien compris, l'IA n'est pas un gadget, Stéphane. Mais enfin quand même, est-ce que Jancovici n'a pas un peu raison ? Est-ce qu'il ne faudrait pas consacrer plus à l'environnement et moins à l'IA ?
109 milliards pour l'IA, juste 1 milliard pour nos forêts. On a demandé à Antonin Bergeot de réagir à ce parallèle. Professeur d'économie à HEC, spécialiste de l'innovation, lauréat du prix du meilleur jeune économiste.
J'étais assez étonné puisque, d'une part, les 109 milliards d'investissements dans l'IA, c'est de l'argent privé, déjà, en grande partie. Donc, ça n'avait pas forcément beaucoup de sens de comparer ça à de l'investissement public dans l'Office des eaux et forêts. Par ailleurs, on investit beaucoup dans l'environnement, y compris de l'argent privé. Le plan de relance France 2030, qui est le plan principal en France d'investissement, consacre la moitié de son enveloppe à l'environnement. Et en fait, beaucoup moins à l'IA, d'ailleurs. Donc, je pense que c'est assez faux de dire qu'on n'investit plus dans l'environnement. Et par ailleurs, je ne suis pas convaincu qu'il y ait une opposition à faire entre l'IA et l'environnement. Évidemment, l'IA consomme des ressources, c'est une activité polluante. Mais derrière, l'IA, c'est aussi une chance exceptionnelle pour en fait, travailler dans l'optimisation de notre utilisation d'énergie, dans l'efficacité et la décarbonation de la production. Si on se passe de l'IA, on va rater un certain nombre de virages technologiques.
Des virages technologiques qui peuvent nous aider à moins polluer.
Alors imaginons quand même qu'on arrête d'investir dans l'IA. Qu'est-ce qui se passe concrètement ?
Qu'on arrête d'investir dans ce gadget pour riches Américains qui s'ennuient. C'est ce que demande texto Jean Covici, oubliant un peu vite que le pays le plus en avance sur les voitures autonomes, c'est la Chine. Sur les robots humanoïdes, pareil, c'est la Chine. Sans parler de DeepSeek ou de l'IA d'Alibaba. Que se passerait-il demain si on arrêtait d'investir dans l'IA aujourd'hui ? Réponse de notre économiste.
La première chose, c'est qu'on n'aura pas de secteur producteur d'IA ou producteur de robots, ce qui est un peu le cas aujourd'hui en Europe. On a un secteur numérique qui est assez petit, en fait. Donc tous les gains en termes de création de valeur qui vont vers ce secteur, qui sont en fait les premiers à réagir quand il y a une révolution industrielle comme actuellement, on ne les aura pas. Ils vont être en Chine et aux États-Unis. Et puis ensuite, la deuxième vague qui est encore pire, en fait, c'est qu'on va prendre du retard à l'adoption. Et donc, en fait, tous les autres secteurs, ceux qui ne produisent pas de l'IA mais qui l'utilisent, vont être en retard par rapport à ce qui se fait en Chine et aux États-Unis. Et donc, finalement, l'effet, la vague de gains de productivité qu'ils vont connaître va être plus lente et va être plus modeste. En tout cas, c'est ce qu'on a vu dans les années 90 et 2000.
Alors, il reste une question, Stéphane. Jean Covici est un homme intelligent. Pourquoi est-ce qu'il fait des raccourcis aussi grossiers ?
Parce qu'il confond l'IA et l'IA générative, comme beaucoup de monde. Et j'ai une preuve, c'est cette conférence qu'il a donnée le mois dernier. Il est interrogé sur la vision qu'il a de l'intelligence artificielle. Et voici sa réponse.
Aujourd'hui, vous avez des data centers dont la puissance appelée serait de 1 gigawatt. C'est un gros barrage ou un réacteur nucléaire. Juste pour faire tourner un truc qui ferait éventuellement papa-maman et qui vous classe les CV un peu plus vite. Et pour la petite histoire, je ne sais pas si ça concerne des gens dans cette salle, 13% des requêtes sur ChatGPT aux dernières statistiques, c'était pour avoir une conversation érotique avec l'IA.
Un truc qui classe les CV ou qui génère des conversations érotiques. Pour Jean-Co, l'IA, c'est seulement ChatGPT et ça, c'est un problème.
Il y a une grande confusion qui vient du fait qu'on a mis le mot IA sur l'IA générative. Et on entend même parfois que l'IA est arrivée il y a 3 ans dans l'imaginaire des gens parce que tout le monde a un peu manipulé. ChatGPT a fait une image, un petit texte et un petit poème et puis on voit tout à fait ce que c'est. Alors que en fait, c'est une technologie très ancienne. Et en fait, l'IA qui infuse doucement, notamment dans l'industrie, qui permet d'optimiser les procédés de production. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Les LLM, ChatGPT, c'est une technologie d'IA parmi d'autres. Mais en fait, on a des besoins de l'IA qui sont bien plus globaux que ça. On a besoin de voitures autonomes, d'électroménagers beaucoup plus intelligents, par exemple des machines à laver qui consommeront moins parce qu'elles s'activent à des moments qui sont plus opportuns, etc.
Résumer l'IA à ChatGPT, c'est un peu comme si je résumais Internet aux vidéos de chat que vous postez sur Facebook, Fabienne.
Non, jamais, hein, je vous le dis. Puis vous vous arrangerez avec Jean-Claude Covici, vous c'est allez vous échanger vos adresses mail. Stéphane, merci beaucoup. L'ami des IA, à jeudi prochain, le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Hélène Philly juste après le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Rédacteur en chef du 18-20, Philippe, ce soir, le projet de loi sur la fin de vie qui approche de sa conclusion.
Oui, le message de Marina. Mon père est atteint de la maladie de Parkinson, il ne marche plus, il ne parle plus, il tremble. Comment peut-il remplir les conditions d'admission à la dose létale ? Sarah est infirmière, on sait les soignants réticents, pas elle.
J'estime que c'est un soin, le soin final qu'on peut apporter à quelqu'un qui le demande et qui l'a réitéré, donc je suis pour.
Pierre, on a un système de santé qui est en vrac, beaucoup de Français n'ont pas accès à un médecin, il y a un problème de raisonnement avec cette loi.
01 45 24 7000 pour dialoguer avec nous et même chemin par WhatsApp.